Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Hélène Lefrançois, Marc Gollery, dont Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Nouvelle série consacrée au nucléaire. Ces dernières années, l'atome ne cesse de prendre de la place dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil, avec des États qui se sont dotés d'armes nucléaires malgré le traité de non-prolifération de 1968, avec des pays qui ont considérablement développé leur industrie aussi. On pense à la Chine, qui devient un acteur de plus en plus incontournable. Pour commencer, on va se pencher sur ces puissances qui réinvestissent massivement dans leur arsenal nucléaire. Washington, Moscou, Pékin, le retour de la course aux armements, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous avons créé un mini-réacteur nucléaire ultra puissant qui peut être installé sur un missile de croisière tel que notre nouveau missile CH-101. Mais il permettra surtout de décupler, je dis bien décupler, la portée du missile. Il n'y a donc plus aucune limite de distance.
Dans le cadre de notre défense, nous devons moderniser et reconstruire notre arsenal nucléaire, en espérant néanmoins n'avoir jamais à l'utiliser, et le rendre si fort et si puissant qu'il dissuadera tout pays ou qui que ce soit d'autre de commettre des actes d'agression.
Voilà, on entendait le président russe en mars 2018, Vladimir Poutine, mais aussi le président américain Donald Trump, quelques jours plus tard, en janvier 2018. Quelques jours plus tôt, pardon, en janvier 2018. Le 14 août dernier, une explosion tuait plusieurs scientifiques russes sur une base du Grand Nord, un accident survenu dans le cadre du développement d'un nouveau genre de missile. Quelques jours plus tard, le 20 août, c'était les États-Unis qui confirmaient la réalisation d'un test de missile de moyenne portée depuis le sol, une première depuis la fin de la guerre froide. Deux événements récents qui confirment le regain d'intérêt pour l'arme atomique et qui laissent craindre le retour d'une véritable course aux armements, d'autant qu'en février dernier, Donald Trump annonçait son retrait du FNI, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, conclu en 1987 entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Mais désormais, Washington et Moscou n'y sont plus les seuls acteurs, Pékin étant même peut-être en passe d'en devenir le principal moteur. Mais quelles sont les réelles ambitions chinoises dans le domaine nucléaire? D'ailleurs, que sait-on vraiment de leur capacité? Comment les Américains, les Russes repensent la place de l'atome au regard de cette nouvelle donne? La fin du FNI, ce fameux traité, a-t-elle relancé une course aux armements? Comment l'Europe aussi doit-elle réagir face à ce nouvel environnement? Et finalement, dans ce nouveau contexte, quelle place pour la dissuasion militaire, nucléaire. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Emmanuel Maître, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Également membre de la FRS, Benjamin Haute-Couverture, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, responsable du programme Arms Control et Technologie. Alors, on est, je le disais dans mon introduction, à quelques jours d'intervalle cet été, on a eu deux événements importants, cette explosion dans un complexe russe et puis cet essai américain d'un missile sol-sol. Est-ce que ça y est, la course à l'armement nucléaire est bel et bien relancée ou est-ce que c'est excessif quand je dis ça, Emmanuel Maître?
Je dirais que c'est sans doute un petit peu excessif, déjà parce que le missile américain n'a pas forcément une vocation nucléaire. Les États-Unis étaient surtout intéressés sur des armes conventionnelles, sur des portées intermédiaires, donc c'est toujours...
C'est un essai de Tomahawk en l'occurrence.
Oui.
Mais qui peut...
Donc sur des portées qui étaient interdites auparavant, ouais. Donc ça pourrait potentiellement être nucléaire, mais a priori ouais. Les stratèges américains avaient plutôt comme ambition d'avoir des missiles conventionnels sur ces portées. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est toujours un petit peu méfiant sur le terme de course aux armements, parce que, et on en parlera sans doute tout à l'heure, mais par exemple sur la Chine, pour l'instant c'est surtout beaucoup d'armes conventionnelles qui sont développées et les systèmes sont pas forcément nucléaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même le nucléaire de manière générale, militaire, est beaucoup plus sur le devant de la table depuis un certain nombre d'années. Avec des nouvelles technologies, avec des programmes d'investissement, et puis avec aussi un retour d'importance, de plus grande importance dans les doctrines d'un certain nombre d'États, ce qui reflète sans doute le retour plutôt des affrontements, ou en tout cas des compétitions entre grandes puissances auxquelles on a assisté depuis l'Ukraine, entre guillemets.
Alors, on parlera évidemment de la Chine, mais restons peut-être un moment sur les États-Unis et la Russie. Benjamin de Couverture, est-ce que vous êtes aussi nuancé qu'Emmanuel Maître? Il n'y a pas encore aujourd'hui de course à l'armement dans le domaine nucléaire?
Non, je pense qu'effectivement, je partage l'analyse d'Emmanuel Maître. En revanche, les divers événements que vous avez mentionnés donnent effectivement un sentiment de retour à des facteurs qu'on a pu voir prendre corps au cours de la guerre froide et qui donnent un sentiment de retour à la course aux armements et un sentiment de retour à une forme aussi de guerre froide dans un nouveau triangle stratégique, disons, d'un ordre multipolaire qui se met en place. Mais j'insisterai pour le moment sur un point important qui est le suivant. Les essais auxquels vous avez fait mention et les développements technologiques qui prennent place aujourd'hui, ou plutôt que l'on voit aujourd'hui en source ouverte, sont le résultat de recherche et développement et d'efforts de modernisation et de mise à niveau qui remontent à une vingtaine d'années pour la Russie, encore un peu plus pour la Chine, et s'agissant des États-Unis depuis au moins une bonne dizaine d'années. Et d'ailleurs, on retrouve ce phénomène de mise à niveau dans d'autres États dotés de l'arme nucléaire, tels que la France et le Royaume-Uni.
Donc il y a une espèce de
des équipements.
Sur l'explosion qu'on a eue cet été au mois d'août du côté de la Russie dans ce complexe, c'est de la remise à niveau, parce que
non.
C'est pas exactement
non.
ce qu'on est en train...
Enfin,
il y a un peu de flou, évidemment, et vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair. Mais on a d'abord parlé d'une pile nucléaire, et puis d'un réacteur nucléaire carrément sur un missile. C'est quoi cette explosion, et est-ce que vraiment c'est de la remise à niveau?
Alors non, là il s'agit pas de remise à
niveau, là.
Il s'agit d'un développement sans doute d'un nouvel armement, sur lequel on ne sait pas grand-chose. Mais je finis juste sur cette idée de la concomitance d'un mouvement plutôt de long terme, assez long, qui a 20 ans ou une dizaine d'années, et qui fait qu'à peu près tous les États dotés de l'arme nucléaire arrivent aujourd'hui avec des équipements en cours de renouvellement ou qui arrivent à maturité.
Donc c'est le cas aussi pour la France, par exemple.
C'est le cas pour la France, naturellement. Comme on l'a vu d'ailleurs dans la loi de programmation militaire qui a été votée et qui fait que la mise à niveau des équipements français va prendre 10 à 15 ans aujourd'hui. Mais il y avait ce besoin, il y avait cette identification, il y avait cette recherche et développement. Aujourd'hui, il y a les budgets pour produire. On a ce sentiment, mais en réalité, on est sur un mouvement de temps long. Pour revenir à ce que vous disiez sur cet événement de cet été, d'abord, il n'y a pas de réalité avérée et officielle de ce qui s'est passé, mais effectivement, il pourrait s'agir d'un missile de croisière russe à propulsion nucléaire, qui est le missile de dénomination OTAN SSCX-9 Skyfall, c'est-à-dire qui est connu et qui a été annoncé par le président Poutine lors de son discours de mars 2018. Et qui annonce quoi? Qui annonce qu'il va y avoir une diversification des moyens de l'arsenal russe en cours, qui est revendiquée, qui est officielle, qui est dite et qui est en train d'être mise en œuvre. Et là, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un État doté qui réémerge sur la scène stratégique comme compétiteur des États-Unis pour revenir à un niveau de parité qui a été perdu depuis à peu près une vingtaine d'années. Et c'est une volonté politique de la présidence russe qui fait sourciller à Washington, mais qui d'une certaine manière peut être comprise. Cette demande de parité est aussi une demande chinoise, et après 10 à 20 ans de primauté américaine, on arrive peut-être à un rééquilibrage historique en cours.
Emmanuel Maître, ça sert à quoi d'avoir un missile doté d'un propulseur nucléaire?
Alors, théoriquement, ça sert à avoir des portées extrêmement longues, puisqu'on est plus limité par la capacité d'emport en carburant du missile. Dans les faits, c'est quelque chose dont on ne sait pas encore si c'est...
Ça veut dire que vous pouvez le faire voler autant que vous voulez, ou presque?
Oui. C'est en tout cas ce qui a été affirmé par le président russe. Dans les faits, les prototypes ont jamais été... On n'a pas de preuve que ça puisse véritablement marcher. Et ce que beaucoup d'observateurs, et malheureusement la réalité vient de donner un petit peu raison à ça, craignent, c'est que c'est très dangereux, bien sûr.
Parce
c'est pour ça que la technologie, la technologie donc avait été testée aux États-Unis dans les années 60, et puis ils avaient un peu abandonné le concept. Alors après, les Russes prétendent avoir de nouvelles technologies, ce qui est très possible. En 50 ans, les choses ont pu, même 60. on peut évoluer, mais on a encore beaucoup de doutes.
On a plutôt quand même en tête justement que la Russie ces dernières années était dans une dynamique de rattrapage des États-Unis quand en réalité les États-Unis étaient en avance. Si Moscou parvenait à développer cette technologie-là, elle ferait un pas considérable. Alors, et dépasserait les États-Unis de fait.
Et c'est probablement vraiment pour ça que le président russe soutient avec autant d'affichage politique ces programmes-là, qui lui permettent de montrer à sa population et à l'international que la Russie non seulement fait jeu égal, mais a même des capacités technologiques plus importantes. Et on a l'impression que ce missile, comme un certain nombre d'autres armes du même type, qui sont vraiment mises en valeur par le président russe avec presque un attachement personnel dessus, ça sert moins à avoir une parité militaire ou à permettre de menacer davantage les États-Unis, parce que finalement, ils avaient déjà des systèmes extrêmement performants sur des missiles plus classiques, mais vraiment à pointer les capacités technologiques des ingénieurs russes. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, quand on voit les discours des leaders russes et la fierté qu'ils peuvent avoir pour leurs ingénieurs, c'est vraiment cette idée de montrer leur capacité. Et bon, peut-être plus à des fins politiques internes que pour vraiment des raisons militaires.
Parlons un tout petit peu de technologie, Benjamin Haute-Couverture, parce qu'il y a ce missile à propulsion atomique qu'on essaye de développer du côté de la Russie, mais visiblement, il y a quelque chose qui intéresse énormément de puissance et qui semble constituer le graal d'une certaine manière des puissances les plus avancées, c'est les missiles hypersoniques. Il y avait un article très intéressant en juin dernier, très long article du New York Times, sur précisément ces missiles hypersoniques. Finalement, il y a plusieurs questions. D'abord, on en est où des recherches sur cette arme? Parce que visiblement, si j'ai bien compris, c'est pas forcément une arme nucléaire, mais ça a l'air d'être véritablement l'arme que tout le monde veut avoir. En tout cas, les États-Unis, visiblement, misent énormément là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on mise là-dessus plutôt que sur le nucléaire? Qu'est-ce qui se passe, là? Et est-ce que ça change, d'une certaine manière, aussi la dissuasion telle qu'on la connaît, telle qu'elle existait jusqu'ici?
Alors, pour le moment, on est...
Dissuasion nucléaire.
Alors, pour le moment, effectivement, on est surtout dans la phase de recherche et de développement. Les armes hypersoniques... de manière générale, la modernisation des moyens d'emport, et c'est vrai pour les États-Unis, pour la Chine, pour la Russie et pour la France, prend plusieurs formes. C'est la vélocité, effectivement, la précision et la puissance. Et ça, c'est vrai de tout le monde, si vous voulez. Et c'est vrai en particulier de ce qui est fait en France en ce moment avec le missile de croisière naval, etc. Les armes hypersoniques, qui pour le moment ne sont pas dans l'arsenal nucléaire des États dotés, si vous voulez, permettraient à l'évidence, en particulier à des États comme la Russie et comme la Chine, de donner des réponses au développement parallèle aux États-Unis et ailleurs, des défenses antimissiles. Et donc, c'est une manière de contrer ce qui est de plus en plus perçu comme étant l'avantage, le nouvel avantage stratégique qui avait été élaboré, un petit peu développé avec l'IDS dans les années 80 aux États-Unis, mais qui aujourd'hui prend forme.
C'est-à-dire qu'avec le missile hypersonique, vous pouvez percer n'importe quelle défense
antimissile.
Nucléarisé ou pas.
Absolument, ouais. Que le missile soit conventionnel ou qu'il ait une charge nucléaire. Et donc, c'est naturellement l'une des voies, ça ne change pas, si vous voulez, radicalement la donne, mais c'est l'une des voies de recherche, en particulier promue politiquement, là encore, comme le disait Emmanuel, par la Russie ou par la Chine, comme une manière d'affirmer que les efforts qui sont faits par les États-Unis en matière de défense antimissile sont, in fine, sur le plan stratégique, vains. Parce que, avec des missiles hypersoniques, de toute façon, un bouclier antimissile sera toujours perforable.
Alors, les boucliers les missiles hypersoniques, ça concerne pas ce que j'évoquais tout à l'heure, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.
Absolument.
C'est important parce qu'en octobre dernier, effectivement, Donald Trump décide de sortir de cet accord qui est un accord historique extrêmement important en 1987. Alors, c'était pas le premier entre la Russie, donc l'URSS et les États-Unis, mais il est quand même très très important. Reagan et Gorbatchev signent ce traité-là. Il se trouve que Donald Trump a décidé d'en sortir, et c'est effectif depuis peu de temps, depuis le début du mois d'août. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord en quelques mots, faisons un peu de pédagogie, Emmanuel Maître, ce qu'il y a dans ce traité-là, et la raison pour laquelle Donald Trump a décidé d'en sortir. Visiblement, il y a plusieurs raisons. Alors, on va essayer d'aller pas à pas. Emmanuel Maître.
Alors, très simplement, donc, c'était un traité très intéressant et novateur à l'époque, 87, puisqu'il interdisait purement et simplement toute une catégorie de missiles entre les États signataires, donc l'URSS et les États-Unis, tous les missiles terrestres, donc lancés depuis le sol, hein, pas ceux qui peuvent être emportés depuis un navire, etc. Ce sont des précisions un peu importantes dans les circonstances actuelles, d'une portée comprise entre 500 km et 5500 km, des missiles qui étaient considérés comme déstabilisateurs parce que, ayant un temps de vol court, pouvant s'abattre sur l'Europe de l'Ouest rapidement ou sur la Russie pour ceux qui étaient déployés sur le territoire européen. Et donc forcément, temps de vol court veut dire peu de temps pour se préparer. Et donc, des missiles qui étaient perçus comme intéressants potentiellement pour une première frappe massive qui viendrait anéantir l'adversaire. Donc, après plus de 10 ans de négociations en 87, on avait réussi à obtenir la suppression, voilà, l'élimination de cette classe de missiles. Malheureusement, depuis 2013-2014 à peu près, les États-Unis ont fait remarquer que les États-Unis étaient en violation de ce traité. Que la Russie était en violation de ce traité.
C'est vrai, c'est le cas.
Alors, tout porte à le croire, au sens où les pays de l'OTAN quasiment tous publiquement affirmé qu'ils croyaient les accusations américaines, mais avaient également fait le même diagnostic au vu de leurs propres informations. En particulier, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ont aussi eu ce type de déclaration. Donc, ça semble très très plausible. Et en l'espèce, ce qui est reproché à la Russie, c'est donc d'avoir testé. Un test d'un missile de cette capacité sur un lanceur terrestre.
Benjamin de Couverture, je vais vous faire réagir, mais il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière et se souvenir que la crise de Cuba, qui a peut-être été la crise la plus importante entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, elle concernait évidemment des missiles de cette catégorie-là. Retour sur octobre 62, quand JFK prend la parole après justement avoir découvert la présence de missiles russes sur Cuba. This government has
promised. Ce gouvernement, comme promis, a maintenu la plus étroite surveillance sur l'accroissement militaire soviétique sur l'île de Cuba. Au cours de la semaine passée, des preuves irréfutables nous ont permis d'établir qu'un ensemble de sites de missiles offensifs est actuellement en préparation sur cette île prisonnière. La politique de notre pays sera de considérer tout missile nucléaire lancé de Cuba contre un pays de l'hémisphère occidental comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, nécessitant des mesures de représailles massives contre l'Union soviétique.
Voilà, il faut se souvenir, Benjamin de Couverture, qu'à l'époque, vraiment, on frôle la catastrophe. On a des B-52, une soixantaine de B-52 qui sont bourrés de bombes thermonucléaires qui volent dans le ciel européen, prêtes à aller larguer tout ça sur l'URSS. Ces armes à portée intermédiaire, elles sont à l'origine de cette crise des missiles de Cuba. Aujourd'hui, il n'y a plus de FMI qui précisément encadrait ce type d'armes. Est-ce que ça veut dire que demain peut advenir une crise de ce genre-là ?
Alors, ce qu'il faut effectivement rappeler au départ, c'est que le FMI ne porte que sur les moyens sol-sol. Donc, les Américains comme les Russes ne se sont pas, ont été autorisés et l'ont fait à développer des moyens air-sol et des moyens mer-sol dans ces portées-là. Donc, ça ne change pas radicalement la donne. C'est juste la possibilité d'élargir l'éventail de ses moyens dans ses portées, avec des systèmes sol-sol. La question qui va se poser maintenant, c'est de savoir si de tels moyens du haut vont être mis en place, installés. Alors effectivement, s'agissant des Russes, on sait qu'il y a déjà des bataillons de ces missiles qui sont à double capacité et qui sont installés. Est-ce que les États-Unis vont convaincre leurs alliés en Europe, mais également en Corée et au Japon ou en Australie, d'installer des missiles de ces portées, rien n'est moins sûr, en revanche, parce que politiquement, ça va être beaucoup plus difficile. Et pour le moment, on penserait plutôt le contraire, parce qu'il n'y a aucun responsable politique européen ou parmi les alliés de l'Asie Pacifique, les alliés américains, qui n'accepterait de le faire. Donc, il y a pour le moment une réalité sans doute conventionnelle de la portée de ces missiles, en revanche, et du déploiement de ces missiles, en revanche, de nouveaux moyens nucléaires à portée intermédiaire, ça c'est beaucoup moins sûr dans ces formats sol-sol, beaucoup moins sûr.
Emmanuel Maître, lors de cette crise des missiles de Cuba, les deux camps à ce moment-là ont vraiment pris conscience qu'on était passé à côté de la catastrophe et d'une apocalypse nucléaire. Et au fond, c'est peut-être à partir de là que les deux camps prennent conscience aussi qu'il est impératif d'éviter le pire et donc qu'il faut donner un certain nombre d'informations pour qu'on ait justement une idée à la fois des capacités et des intentions des uns et des autres. C'est vraiment un moment décisif. Aujourd'hui, on sort précisément de ce traité-là. Donc précisément, les informations vont en avoir de moins en moins. Les échanges sur les capacités, sur les intentions des uns et des autres, on va en avoir de moins en moins. Est-ce que c'est pas ça finalement le risque, c'est-à-dire l'ignorance mutuelle.
Oui, c'est clairement quelque chose d'important qui est pointé du doigt très régulièrement. Depuis la crise en Ukraine, il y a eu beaucoup moins d'échanges entre les militaires russes et les militaires américains. Un des réflexes de l'OTAN, ça a été initialement de supprimer les forums de discussion qui existaient avec la Russie. Et puis on s'aperçoit que ce genre de réaction qui se comprend à chaud parce que voilà, on est dans une situation de crise, bah, finalement, ça ne fait que renforcer un petit peu le manque de compréhension entre les deux côtés. Sur les traités, c'est vrai que c'est un point très important puisque l'absence de traités juridiquement contraignants avec système de vérification, bah, ça veut dire moins on supprime les inspections, la possibilité de se parler sur les arsenaux. Et c'est d'ailleurs un des enjeux également.
Il y en avait dans le traité FNI justement des procédures de contrôle mutuel.
Oui, il y avait eu des. Alors, du coup, ça se faisait plus depuis un petit moment, mais il y avait eu des inspections au moment de l'élimination.
Des deux côtés.
Et puis il y avait eu des, enfin il y avait encore un mécanisme qui aurait pu être mis en place, qui avait été convoqué d'ailleurs de commissions, de discussions pour parler des violations éventuelles, mais la Russie a jamais reconnu avoir un missile posant problème, donc du coup on n'est pas allé jusqu'à la demande d'inspection. Et c'est un enjeu également pour un autre traité de maîtrise des armements, c'est le New START, donc qui est le dernier grand traité de un petit peu hérité de cette période de la maîtrise des armements, qui est encore en survie aujourd'hui, donc qui va prendre fin a priori en 2021. On ne sait pas s'il va être reconduit, il n'y a pas beaucoup de signes que ça va être le cas. Et non seulement ça voudra dire qu'il n'y aura plus de limites quantitatives sur les arsenaux, ce qui est embêtant mais qui n'est pas forcément gravissime parce qu'on ne s'attend pas à une progression majeure des arsenaux, ni les États-Unis ni la Russie n'ont les moyens de financer ce qu'ils ont fait dans les années 70. Mais par contre, on n'aura plus ces fameux échanges d'informations sur les missiles, sur les déploiements, etc.
New START qui avait été signé en avril 2010 et qui effectivement arrive à échéance en 2021. Benjamin Haute-Couverture, c'est ça le plus grand danger au fond. C'est pas tellement que on développe de nouvelles technologies qui effectivement potentiellement peuvent entraîner une forme d'apocalypse, mais c'est précisément l'ignorance, l'absence de traités bilatéraux qui permettent des procédures de contrôle mutuel, etc., etc. C'est ça le problème.
Absolument. C'est cette discipline qui naît au tournant des années 50 à Washington et qui s'appelle l'arms control, qu'on traduit en français par maîtrise des armements, et qui consiste non pas à désarmer en tant que tel, mais à utiliser la clé qu'est le volume des armements pour assurer la stabilité d'une relation stratégique. Donc, l'idée de la maîtrise des armements à partir du début des années 60, ça a été d'organiser quantitativement entre la Russie soviétique et les États-Unis la parité stratégique, la stabilité stratégique qui va avec, et de le fonder sur des inspections mutuelles qui ont pris corps effectivement à partir du début du processus SALT, puis du processus START au début des années 90 jusqu'à aujourd'hui.
SALT 1, 72, le
Absolument.
Premier traité.
Et le traité ABM qui organise aussi cette stabilité stratégique en limitant au plus possible les défenses antimissiles entre les deux pays. À partir du moment où il n'y a plus de traité FNI, donc il n'y a plus ces procédures et cette commission de vérification qui aurait pu fonctionner jusqu'en 2001, mais qui en réalité a cessé de fonctionner en 91-92 quand tous les missiles ont été démantelés entre les deux États. Et à partir du moment où New START n'est pas prorogé, si New START n'est pas prorogé en 2021 pour encore 5 ans jusqu'en 2026, alors il n'y aura quasiment plus d'instances réelles de dialogue et de négociation de maîtrise des armements.
Vous dites s'il n'est pas prorogé, ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de discussion.
Non, bien sûr. Les discussions sont à l'ébauche. mais on est entre les deux pays. Et on l'a bien vu la semaine dernière avec le porte-parole du Kremlin qui a appelé la prorogation du traité New Start la semaine dernière, alors que les États-Unis, de leur côté, semblent dire, mais par des voies différentes, que la prorogation du New Start pourrait être conditionnée par l'augmentation du champ d'application du traité et par l'inclusion de la Chine dans le dialogue. Donc on est au tout début d'un processus, dont, alors que le temps court, février 21, c'est demain, d'un processus qui devrait voir les négociateurs reprendre ce qu'ils veulent faire après 2021. Or, au départ, on a entre les deux États une vraie différence de vue, une vraie opposition, mais j'ajoute qu'il n'y a pas de rupture du dialogue politique entre les deux États. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un niveau moyen diplomatique, il continue d'y avoir, notamment entre les pays de l'OTAN et la Russie, un dialogue entre eux, des professionnels de l'arms control. Mais il n'y a pas d'instance de négociation. Toujours pas. Donc pour le moment, on est dans un vide conventionnel et dans un vide d'accord, même politiquement contraignant.
On va parler de la Chine dans un instant et je vais vous donner la parole, Emmanuel Maître. Mais pardonnez-moi, je voudrais poursuivre un tout petit peu avec Benjamin Haute-Couverture, puisque vous êtes le responsable du programme Arms Control et Technologie. Vous l'avez dit, ce principe, cette doctrine de l'arms control, elle existe depuis très longtemps, depuis les années 70. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est en train de s'effondrer ? Est-ce que c'est l'arrivée de nouvelles personnalités, par exemple un Donald Trump qui d'une certaine manière veut remettre tout à plat et donc c'est tout simplement ça, j'allais dire, qui fait que c'est en train de voler en éclats. Est-ce que c'est parce que, par exemple, on arrive précisément à un moment, comme vous le disiez tout à l'heure au début de l'émission, où on a besoin de faire du rattrapage technologique, où on a besoin de faire des sauts technologiques pour avancer, et que du coup on se débarrasse de tout ça, mais que d'ici quelques années, quand tout le monde aura fait son petit travail, on va se remettre autour de la table et on va remettre en place des procédures. Enfin, comment comprendre pourquoi ça s'effondre maintenant ?
Alors, vous avez raison de poser la question, c'est effectivement une bonne question. Je pense qu'on est dans un processus de temps long, là encore. C'est-à-dire que la déconstruction de cet édifice, de cette architecture de sécurité fondée sur la maîtrise des armements, en réalité, commence à s'effondrer au début des années 2010. Paradoxalement, d'ailleurs, au moment où le président Obama veut relancer le dispositif et le processus START. Mais cet effondrement, il est dû à un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est effectivement un facteur de personne. Je pense que avec Donald Trump d'un côté et surtout ses conseillers stratégiques de l'autre, nous avons des gens qui, à Washington, en ce moment, ne croient plus à la vertu du dialogue de l'arms control et à la limitation quantitative des armements. Et John Bolton disait déjà sous George W. Bush qu'il était inutile de mettre autour d'une même table les gendarmes et les voleurs. Par conséquent, ce sont des gens qui ne croient pas à l'arms control. Ils n'y croient pas parce qu'ils pensent que, de toute façon, en face, nous avons des adversaires ou des compétiteurs, que ce soit les Chinois ou les Russes, qui trichent. Donc, en l'état, il ne peut pas y avoir d'arms control. Par ailleurs, en face, nous avons un discours russe qui est très ambivalent sur l'arms control, c'est-à-dire qu'il y a un soutien assez paradoxal à une discipline dont on pense que, réciproquement, les États-Unis ne la respecte plus dans le principe. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, les États-Unis, selon les Russes, sont d'accord pour la limitation des armements stratégiques, mais à côté de ça, ils développent de nouveaux moyens, qu'ils soient conventionnels ou qu'ils soient des défenses antimissiles, qui réduisent à zéro les efforts qui sont faits par ailleurs sur le plan diplomatique sur les armements stratégiques. Donc il y a une rupture de confiance. Et dans cette rupture de confiance vient s'ajouter effectivement ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire des processus industriels et de modernisation et programmatiques qui arrivent à maturité aujourd'hui. Et dans cette maturité, ces armements doivent être, sinon déployés, en tout cas développés et produits. Et par conséquent, on peut s'attendre naturellement à ce qu'il y ait un renouveau de l'arms control dans un format sans doute différent, et en particulier pas forcément bilatéral, parce qu'aujourd'hui le monde n'est plus structuré sur cette bipolarité dans les années à venir. La question qui va se poser, c'est quelle est la place de la Chine là-dedans. On voit bien que les États-Unis aimeraient la faire venir, mais pour le moment, les Chinois n'en veulent à aucun prix.
Voilà justement ce que disait le président chinois à propos de ce qu'il voulait que l'armée chinoise soit à l'horizon 2035. Écoutez.
Nous construisons une armée puissante et moderne dans les domaines aériens, maritimes, une force de feu et une force stratégique. D'ici à 2035, nous bâtirons une armée de classe mondiale.
Une armée de classe mondiale, disait Xi Jinping, c'était en octobre 2017. Emmanuel Maître, vous avez probablement remarqué qu'il ne parle pas vraiment directement de nucléaire. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. C'est d'abord le fameux traité dont on parlait tout à l'heure, qui est un traité russo-américain. Est-ce que Donald Trump ne décide pas d'en sortir aussi parce que la Chine? Et puis on va essayer de comprendre ce que possède la Chine en termes d'arsenal nucléaire et comment elle le pense dans sa défense globale.
Oui, alors c'est tout le paradoxe et un petit peu l'intérêt de cette question chinoise. D'un côté, on voit que depuis une bonne dizaine d'années, les États-Unis ont vraiment recentré leur analyse stratégique sur leur compétition avec la Chine dans la zone Asie-Pacifique. Ça structure vraiment leurs différents documents et leur programmation militaire. De l'autre, on ne peut que s'apercevoir qu'en termes purement nucléaires, la Chine reste très modeste à la fois dans ses capacités, dans sa doctrine. Donc c'est vraiment plutôt à l'échelle conventionnelle qu'il y a un affrontement. Et donc c'est toute la difficulté de vouloir essayer de renouer un dialogue stratégique sur le nucléaire avec la Chine, parce que pour Pékin, ben voilà, on reste sur un volume d'armes qui est d'à peu près 300, ce qui est incomparable encore avec...
300 têtes nucléaires ?
Oui.
D'accord. Contre pour les États-Unis ?
Alors, on est sur 6000 en tout, avec 1500 déployés. Donc, même si on prend le volume qui est compté dans New Start, autour de 1500, c'est pas comparable.
Mais quelles sont les ambitions chinoises? Parce qu'on sait, avec les Chinois, ça peut aller très vite.
Oui, mais on s'aperçoit que ça va très vite, surtout dans le domaine conventionnel. Sur le domaine nucléaire...
Conventionnel, c'est-à-dire non nucléaire.
C'est les armes non nucléaires. Mmh. Sur le nucléaire, ça progresse. Ils ont clairement une vision de ce à quoi ils veulent prétendre, mais de manière relativement prévisible. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'à-coup de choses comme ça. Et l'autre difficulté avec la Chine, c'est que pour compenser, entre guillemets, ce faible volume, il se base sur une doctrine d'opacité. Donc, pas donner le nombre précis de têtes, pas expliquer où elles sont, etc. En prétendant que c'est pas un problème, puisqu'ils ont une doctrine de non-emploi en premier, que leurs capacités nucléaires sont purement défensives, qu'ils ont une stratégie minimale, etc. Donc, comment entrer dans un dialogue?
Tout le monde a une doctrine de non-emploi en premier, en fait.
Non, pas officiellement. Non, voilà, pour les États-Unis, la Russie, la France, par exemple, on n'a pas cette doctrine-là. On se limite le droit pour ce qui est, par exemple, du cas de la France, d'employer l'arme nucléaire pour toute attaque suffisamment déstabilisante, menaçant nos intérêts vitaux, etc. On n'a pas officiellement indiqué qu'on utiliserait l'arme nucléaire que pour répondre à une première frappe nucléaire. Donc,
compte tenu, Emmanuel Maître, de ce principe d'opacité si cher à Pékin, on imagine, Benjamin, haute couverture, absolument pas l'hypothèse d'une négociation ouverte, élargie entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Il est absolument pas question d'envisager un traité bilatéral ou multilatéral où ces trois acteurs-là, qui sont quand même les trois acteurs essentiels en la matière, se mettraient d'accord pour à la fois dire ce qu'ils ont effectivement et limiter leur capacité. C'est inenvisageable avec Pékin.
Ce dialogue stratégique est appelé de ses voeux par le président américain. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que officiellement, il appelle de ses voeux à la venue de la Chine dans ce travail, y compris d'ailleurs pour un futur FNI ou pour un futur New Start.
Que disent les Chinois?
Les Chinois, pour le moment, ne veulent pas en entendre parler. Mais ce que je veux dire, et pour des raisons évidentes, parce que ce n'est pas leur intérêt, en particulier parce que sur les portées FNI, entre 80 et 85% de leur vecteurs sont développés dans ces portées-là, donc ils n'ont aucune raison, si vous voulez, aucun intérêt national à vouloir négocier de caper ces portées sur les missiles sol-sol, ce qui est bien compréhensible. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je suis en train de dire, qui est un truisme, si vous voulez, est évidemment connu des États-Unis et connu de tout le monde. Donc, ce vœu de l'administration Trump est un vœu pieux. Et en réalité, moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il pense un seul instant que cette possibilité soit réaliste. Il s'agit donc là d'un prétexte, sans doute, pour ne pas relancer un dialogue sur l'arms control auquel, fondamentalement, le lead politique à la Maison-Blanche ne croit plus. De ce point de vue-là, la Chine vient de manière opportune, si vous voulez. Mais il est hors de question pour la Chine de rentrer dans un dialogue stratégique, ne serait-ce que parce que ce que vient de dire Emmanuel, c'est-à-dire que quand vous avez d'un côté à peu près 300 sans tête, ou disons dans cette opacité, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, face à la Russie et la Chine, vous, officiellement, vous avez le discours qui est aussi le discours français, qui consiste à dire, bah, écoutez, réglez vos problèmes entre vous, et quand vous arriverez à peu près à nos niveaux, bah, on se mettra à en parler à plusieurs. Ce qui est tout à fait normal, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc non, ce dialogue n'est pas possible. Ouais. Deux, je pense qu'il n'est pas voulu non plus.
Emmanuel Maître, quand on regarde un peu les 10-20 dernières années, on a vraiment le sentiment que les principales menaces sécuritaires qui ont pesé sur le monde, c'était absolument pas des menaces qui venaient d'entités étatiques. Ce qui a fait trembler le monde ces dernières années, c'est Daesh, c'est Al-Qaïda, c'est des petites unités hypermobiles qui font des attentats avec une poignée d'hommes et quelques milliers d'euros. Les armes nucléaires, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées à ce type de menace? Évidemment, il semble que la réponse soit non. Et donc, le cas échéant, comment comprendre que les États dont on vient de parler, la Chine, les États-Unis, la Russie, misent sur ce développement-là? Parce que ça coûte quand même extrêmement cher.
Alors,
c'est une question un peu naïve, pardon.
Non, mais deux éléments de réponse. Donc, évidemment, la première, comme vous dites, par rapport à ces menaces-là, l'arme nucléaire ne peut rien. Les documents stratégiques des grandes puissances ont remarqué également qu'il y avait d'autres menaces qui prenaient de l'importance, et ces fameux relations d'adversité entre grandes puissances qui revenaient sur le devant de la table, nécessitant de revenir, d'accorder plus d'importance à la dissuasion. Mais ce qui est assez intéressant de nous souligner, c'est que en fait, c'est pas forcément pas lié les deux sujets. Je prends un exemple, c'est que les États-Unis, pendant en effet les 20 dernières années, et notamment au moment de la guerre en Irak, etc., en Afghanistan, etc., se sont vraiment centrés sur ces menaces non étatiques ou d'états voyous, comme on les appelait à l'époque, et ont réfléchi à un certain nombre de capacités. Par exemple, les défenses antimissiles, certaines ont été vraiment déployées, notamment en Europe, en parlant de l'Iran comme principal État qui pourrait être dissuadé par rapport à ça. Les missiles hypersoniques dont on parlait tout à l'heure, les missiles conventionnels de très grande précision et de très grande vélocité, la doctrine officielle américaine, c'était de s'en servir contre, par exemple, des cibles endurcies, mobiles, etc., un camp terroriste dans un pays du lointain sur lequel on pourrait pas accéder par d'autres moyens. C'était un petit peu dans ces logiques-là que c'était développé, donc des nouvelles technologies pour lutter contre ces risques-là. Mais la perception qui a été faite en Chine, et on parlait d'ailleurs de défense antimissile, c'est exact. Le cas est également vrai, par exemple, en Asie contre la Corée du Nord, perçue comme une espèce de puissance déstabilisatrice, mais pas dans la même logique que le triangle dont on parlait. Et en fait, la réponse ou la perception en Russie et en Chine de ces développements-là, ça a été de les voir comme des développements qui venaient en fait amoindrir leur parité stratégique et leur capacité à s'autodissuader avec les États-Unis. Donc en fait, il y a eu un lien entre ces développements technologiques, ces nouvelles armes qui étaient sans doute développées aux États-Unis d'abord dans une vision conventionnelle et contre des adversaires bien particuliers, qui ont ensuite engendré une espèce de course technologique avec la Russie et les et la Chine. Donc on est revenu, on a un petit peu rebouclé la boucle de ce point de vue-là.
Benjamin Haute-Couverture, sur cette correspondance, ou plutôt cette non-correspondance entre les risques ressentis et ce regain pour les armes nucléaires. Sachant que, évidemment, hein, c'est pas parce que la menace sécuritaire vient d'entités non étatiques qu'il n'y a pas de conflictualité entre les États. Il suffit de regarder aujourd'hui la situation de guerre commerciale totale entre Washington et Pékin. Mais enfin, des missiles hypersoniques dans cette guerre commerciale, ça semble pas servir à grand chose, hein, Benjamin Haute-Couverture.
Alors, effectivement, les menaces ne sont pas mutuellement exclusives, vous avez raison, et donc les menaces infra-étatiques existent de longue date, ont pris peut-être plus d'ampleur depuis 20 ans, et y sont apportées des réponses spécifiques. Par ailleurs, la compétition stratégique continue et les rivalités de puissance continuent, vous l'avez dit aussi, et donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, pour que il n'y ait pas dans tous les États dotés un certain nombre, une certaine catégorie de responsables qui s'en occupent spécifiquement. Et par ailleurs, n'oublions pas que, puisque vous mettez en perspective une vingtaine d'années, que depuis à peu près une vingtaine d'années, le désarmement nucléaire des États dotés se poursuit, et s'est poursuivi. Et par conséquent, il y a aussi une réponse des États dotés de l'arme nucléaire à cette modification des menaces à la sécurité, avec une confiance peut-être autant accordée à l'arme nucléaire pour un type de menace, mais une saillance un petit peu moins importante de l'arme nucléaire dans les doctrines de sécurité et de défense entre les années 1991-92 jusqu'aux années 2010-2011. Ce qu'on voit changer aujourd'hui, c'est depuis peu de temps. On voit cette recentralité de l'arme nucléaire dans les doctrines de sécurité et de défense des grands États depuis 2014, à peu près, 2012-2014. Donc c'est très récent.
Et c'est le cas aussi en Europe ?
Absolument.
En France, en Grande-Bretagne, parce que c'est en gros les deux seules puissances nucléaires.
Absolument. Alors avec la France et la Grande-Bretagne, la petite différence, c'est que les doctrines sont assez orthodoxes, n'ont pas évolué, n'ont pas bougé, avec des arsenaux qui ont baissé jusqu'au début des années 2000 et qui à peu près sont stabilisés, disons. Aujourd'hui, qui sont stables après un grand mouvement de désarmement entre les années début des années 90 et les débuts des années 2000, les efforts ont été faits. Les efforts d'adaptation, si vous voulez, de la posture aux dividendes de la paix ont été faits. La question, c'est qu'aujourd'hui, les dividendes de la paix, c'est terminé. C'est derrière nous. La fin de la guerre froide, c'est derrière nous. Et donc, on voit réapparaître des menaces étranges. Qui aurait dit, il y a encore quelques années, dans les années 2008-2009, à l'arrivée d'Obama, qu'un État tel que la Russie allait envahir un autre État en Europe ? On est tous tombés des nues. Et en réalité, cette menace étatique traditionnelle réapparaît, et quand on interroge tous les pays qui sont à la frange nord et est de l'Europe, cette menace russe est redevenue une menace très réelle, face à laquelle, naturellement, les moyens qui furent ceux de la guerre froide continuent d'être opérants et efficaces aujourd'hui. Et donc, viennent en parallèle se superposer deux types de menaces, une augmentation des menaces infra-étatiques et des espèces de formes d'hybridation un petit peu de la violence, et d'autre part des menaces beaucoup plus classiques qui réapparaissent un petit peu contre l'attente de ce qui avait été prévu dans les années 2000-2010.
On est avec vous Benjamin Haute-Couverture et vous Emmanuel Maître dans cette nouvelle série consacrée au nucléaire, les nouvelles prises de risque aujourd'hui, Washington, Moscou, Pékin, le retour de la course aux armements. On va justement parler de l'Europe pour voir comment elle doit réagir, et en particulier il y a aussi un nouveau contexte intérieur en Europe qui est que la Grande-Bretagne devrait, a priori, normalement, dans quelques temps maintenant, lâcher les amarres et donc laisser la France seule puissance nucléaire dans l'Union européenne.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, la France qui va se retrouver seule au sein de l'Union européenne avec cette arme nucléaire. Alors, quelles conséquences sur l'avenir de la coopération européenne de défense ? Quelle sera la place de l'atome dans le dispositif sécuritaire européen ? Qu'en sera-t-il de l'alliance franco-britannique scellée par les accords de Lancaster House en 2010 ? Bonjour Dominique Mongin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin par téléphone. Vous êtes historien enseignant à l'École normale supérieure. Il y a évidemment un lien très fort entre la France et la Grande-Bretagne en matière de sécurité. D'abord, rappelons quand même que c'est les deux armées les plus importantes d'Europe, les deux seules à avoir l'arme nucléaire, qu'elles sont liées par un certain nombre d'accords et de traités. J'évoquais Lancaster House, mais il y en a d'autres, la déclaration de Chequers par exemple. De façon générale, Dominique Mongin, les conséquences de ce Brexit sur les liens franco-britanniques en matière de sécurité, et en particulier en matière de nucléaire.
A priori, il n'y aura aucune conséquence, aucune remise en cause du partenariat stratégique très fort entre la France et la Grande-Bretagne avec le Brexit. Vous avez cité deux accords importants entre la France et la Grande-Bretagne. La déclaration des Chequers, qui est une déclaration de 1995, qui avait été une déclaration en fait entre John Major et le président Chirac, qui disait ceci: on ne peut pas imaginer de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'un des deux pays, donc la France ou la Grande-Bretagne, pourrait être menacé sans que les intérêts vitaux de l'autre ne le soient également. Ça veut dire concrètement que nous partageons des intérêts vitaux communs avec la Grande-Bretagne, donc qu'il y a, faut savoir qu'au centre de la doctrine nucléaire française, c'est la notion des intérêts vitaux, c'est-à-dire la survie de la nation. Si la survie de la nation est en cause, le seul moyen, l'ultime garantie pour notre sécurité, c'est la dissuasion nucléaire. Et donc le fait d'avoir cette déclaration franco-britannique, elle montre l'étroitesse de la coopération entre deux pays. Vous avez cité également donc le traité de Lancaster, enfin les traités de Lancaster House de 2010, qui là aussi prévoit un partenariat stratégique dans le domaine de la défense entre nos deux pays, et notamment dans le domaine de la simulation des armes. Comme vous le savez, la France s'est lancée dans un programme de simulation pour montrer l'exemple dans le domaine du désarmement, et ça donc depuis 1996.
Après avoir fait un petit essai quand même vrai celui-ci, on s'en souvient. Dominique Mongin,
c'était l'ultime campagne.
Et oui, bien sûr. Avant de se lancer dans la simulation, on a quand même fait un véritable essai. Rappelons-le quand même, Dominique Mongin.
Il était indispensable en fait, si vous voulez.
C'est ce qu'on avait dit à l'époque. Je suis pas un expert, je ne sais pas, mais avant de se lancer, on en a fait un tout dernier, et ensuite on s'est lancé sur la question de la Grande-Bretagne et de la France. Est-ce qu'il y a une forme de complémentarité entre la France et la Grande-Bretagne en matière de nucléaire, ou est-ce que finalement on a des capacités qui sont comparables, totalement indépendantes, pas forcément complémentaires? Est-ce qu'on a pensé les choses dans, justement, notamment l'accord de Lancaster House?
Alors, effectivement, vous parlez de complémentarité. Alors, d'abord, il faut dire que nous avons deux forces de dissuasion un peu différentes, dans le sens où la composante aéroportée a été supprimée du côté britannique au milieu des années 90. Alors que la France conserve deux composantes, la force océanique stratégique et les forces aériennes stratégiques. Donc nous avons deux composantes. Donc ça c'est une première chose. Cela ne veut pas dire que on ne pourrait pas envisager dans l'avenir une complémentarité entre par exemple les forces aériennes stratégiques britanniques et les forces nucléaires françaises. On peut l'imaginer, ça fait partie des hypothèses.
Et alors, si on met maintenant la Grande-Bretagne de côté, parce que normalement, je le disais, dans quelques semaines, le 31 octobre, la Grande-Bretagne devrait quitter l'Union européenne. On n'est jamais sûr avec le Brexit, mais on se retrouverait donc, la France se retrouverait donc le seul pays à avoir l'arme nucléaire en Europe. Quelle pourrait être, compte tenu justement de ce départ, la place du nucléaire dans le dispositif européen commun? Parce que évidemment, il y a de plus en plus en Europe une conscience qu'il est désormais urgent de construire une défense commune à la hauteur des enjeux de l'époque qu'on a décrit depuis le début de cette émission.
Tout à fait. Alors, d'abord, je pense qu'il faut rappeler que pour la doctrine nucléaire, la stratégie nucléaire française, on concilie à la fois l'indépendance nationale, notre autonomie stratégique et la solidarité européenne. Depuis l'origine, depuis le général de Gaulle, on n'a jamais conçu notre dissuasion nucléaire en dehors du contexte européen, en dehors du contexte de nos alliés européens. Et donc ça, je pense que c'est très fort. Ça pour dire qu'il y a eu toute une réflexion qui a été menée donc depuis les années 60 sur la manière dont nous pouvons apporter une garantie, même si aujourd'hui on ne peut pas parler encore de garantie parce qu'il n'y a pas de dissuasion élargie, mais montrer que nos intérêts vitaux ils peuvent s'élargir éventuellement, si le chef de l'État le décide, à d'autres pays.
Alors attendez, je m'arrête tout de suite, Dominique Mongin. Vous parlez de solidarité européenne, c'est très important. Est-ce que vous pensez que Paris serait enclin à demander de la solidarité européenne en matière de nucléaire, quitte à perdre un petit peu de sa souveraineté? Parce que c'est ça, si vous demandez aux autres de prendre un peu à leur charge le coût de l'arme nucléaire, forcément vous devez aussi abandonner un petit peu de votre souveraineté dessus.
Alors, vous avez raison, c'est la question centrale. Aujourd'hui, évidemment, on parle de souveraineté nationale, et la question, encore une fois, s'était posée à plusieurs reprises, comme je l'ai dit, depuis les années 60, et en particulier en pleine guerre froide, en pleine crise des euromissiles, justement, avec le président Mitterrand, qui disait « Il y aura un jour probablement une dissuasion européenne à partir du moment et si seulement il y a des intérêts vitaux communs » et reconnu par tous les États en tant que tel. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est absolument pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est encore prématuré de savoir si ce concept de souveraineté européenne pourrait voir le jour. Mais le Mitterrand y avait pensé, et le dernier président qui a communiqué sur cette éventualité, c'est le président Hollande. Vous savez que chaque chef d'État français fait une grande déclaration sur la dissuasion nucléaire lors de son quinquennat. Et le dernier, donc c'est le président Hollande à Istres en février 2015, qui disait très clairement que la définition de nos intérêts vitaux ne saurait être limitée à la seule échelle nationale. Et il disait même que la dissuasion nucléaire française apporte une contribution forte et essentielle à l'Europe. Évidemment, il n'allait pas plus loin.
Peut-être toute dernière réaction. Oui, alors, rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Je vous en prie, allez-y.
Oui, le problème aujourd'hui, c'est évidemment quel serait... On a essayé d'engager un dialogue, en particulier à partir du milieu des années 2000, avec les Allemands en particulier, et il n'y a pas eu vraiment jusque-là. de réponses très fortes, d'intérêts très forts. Mais on voit que les lignes bougent, on voit que certains parlementaires allemands aujourd'hui commencent à évoquer l'idée d'un déterrent européen, d'une dissuasion européenne, avec la France comme étant au cœur du dispositif.
Benjamin de Couverture, un transfert des capacités nucléaires à l'Union européenne, de la France à l'Union européenne, ça vous paraît possible ?
Non, ça c'est absolument pas possible. D'abord parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, et ensuite parce qu'il n'y a pas de réalité de la dissuasion nucléaire française dans le cadre de l'Union européenne. Si il y a une réalité européenne, en revanche des intérêts. La raison pour laquelle, du reste, le Brexit ne va pas impacter ce périmètre de la dissuasion nucléaire française, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, de réalité institutionnelle de la dissuasion nucléaire française dans le cadre de l'Union européenne à Bruxelles. Donc, comme le dit Dominique Mongin, il n'y aura pas d'impact. En revanche, que la fin du traité FNI, que la dégradation de l'environnement stratégique ait conduit nos amis allemands à reposer la question de la dissuasion européenne, montre bien que les garanties...
La dissuasion nucléaire
européenne, montre bien que les garanties de sécurité apportées par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN sont un petit peu mises en doute par certains pays européens et par certains responsables politiques européens qui ne voient pas dans le discours de la Maison-Blanche des raisons d'optimisme s'agissant de leur propre sécurité face à la montée de la menace russe. Et par conséquent, se repose à nouveau ce serpent de mer de la dissuasion européenne. Mais et c'est tout à fait normal, si vous voulez. La forme que ça prendra, on le verra dans les années à venir, parce que c'est un débat qui progresse, qui est évolutif, mais le Brexit n'a pas tellement d'impact, n'aura pas d'impact là-dessus, non.
The sun goes down and leaves me sad and blue. The iron curtain falls on this cold war with you. Though you won't speak and I won't speak, that's true. Two stubborn people with a cold war to go through.
Merci beaucoup à nos invités. Dominique Mongin qui était avec nous par téléphone, dont je rappellerai les ouvrages Dissuasion et simulation de la fin des essais nucléaires français au programme Simulation, c'était chez Odile Jacob. Il a également co-dirigé avec Céline Jürgensen Résistance et dissuasion des origines du programme nucléaire français à nos jours chez Odile Jacob. On va mettre tout ça évidemment sur la page de Culture Monde. Un grand merci à nos deux invités ici de la FRS, Emmanuel Maître et Benjamin de Couverture, de nous avoir éclairés sur ce retour de la course aux armements, même si vous m'avez dit l'un et l'autre que c'était peut-être un petit peu fort. En tout cas, on voit bien un regain d'intérêt d'un certain nombre de pays pour cette arme. Un grand merci à tous les deux. On poursuivra évidemment notre série consacrée au nucléaire. Demain, pour l'heure, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on commence avec une citation. Klaus Fuchs a mis en danger la sécurité de plus de personnes et causé davantage de dégâts qu'aucun autre espion, non seulement dans l'histoire des États-Unis, mais dans l'histoire de toutes les nations. Citation.
Et voilà, c'est ce qu'écrivaient les membres du Congrès américain dans leur rapport de 1951. Fuchs avait été arrêté l'année précédente à Londres et soumis à des interrogatoires serrés par les agents du contre-espionnage britannique MI5. Il révèle alors ce dont le soupçonnaient les services depuis 2 ans. Oui, il a livré aux soviétiques les secrets dont ils disposaient sur la fabrication de la bombe atomique. Et il les connaissait tous, puisqu'il avait fait partie du team de physiciens de haut niveau directement responsable de la conception de l'arme ultime, le fameux projet Manhattan, au laboratoire de Los Alamos. Il avait même assisté au premier essai grandeur nature de l'arme nucléaire le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique, moins d'un mois avant le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Il avait été aussi associé de très près au développement de la bombe à hydrogène. Dans un livre qui vient de paraître, Trinity, The Treachery and Pursuit of the Most Dangerous Spy in History, Frank Close, lui-même spécialiste de physique des particules, livre de nouveaux éléments sur le cas Klaus Fuchs. Il a eu accès à des archives britanniques, américaines et russes. Et ce qu'il a rassemblé confirme l'importance des secrets transmis par Klaus Fuchs à l'URSS. Du même auteur, Frank Close en avait pu lire il y a 3 ans en français le Mystère Pontecorvo, consacré à un autre physicien travaillant sur les secrets du nucléaire, l'italien Bruno Pontecorvo, qui travaillait lui au centre de recherche atomique de Harwell aux États-Unis. Étrangement disparu en Italie où il passait ses vacances en famille en 1950, il réapparaît 5 ans plus tard comme chercheur à l'Institut de recherche nucléaire de Dubna en URSS. Comme dans un film d'Alfred Hitchcock, on n'a jamais su s'il avait été enlevé ou non.
Mais alors Brice, pourquoi Klaus Fuchs a-t-il trahi les anglo-saxons qu'il avait sauvés en l'accueillant?
Réponse de Frank Close, eh bien, Fuchs était un intellectuel communiste. À ses yeux, l'URSS était la patrie des prolétaires. Ce jeune Allemand brillant était le fils d'un professeur de théologie luthérien et militant du SPD. Exclu lui-même du Parti Socialiste, Klaus Fuchs avait adhéré au KPD, le Parti Communiste Allemand, donc en 1932, l'année précédant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Accueilli en Grande-Bretagne en 1933, Fuchs y poursuit ses études et obtint son doctorat de physique à Édimbourg. Et il s'y fait vite remarquer par la qualité de ses travaux en physique théorique. Il acquiert la nationalité britannique en août 1939. Mais en juin 1940, il est interné en tant qu'Allemand et donc suspect de complicité avec le Troisième Reich, d'abord dans l'île de Man, puis dans un camp au Québec. On ne soulignera jamais assez, comme le fait Frank Close, la bêtise consistant à soupçonner de sympathie pro-allemande des milliers de réfugiés du nazisme, communistes, socialistes, juifs. D'autant que, d'après Frank Close, c'est dans ce camp de Sherbrooke que Fuchs est repéré par Hans Kahle, un recruteur qui travaillait pour les services secrets soviétiques. Lorsqu'il peut enfin retourner fêter Noël en Grande-Bretagne la même année 40, Fuchs est devenu un agent soviétique. Or, il est choisi comme assistant par Rudolf Peiers, le physicien allemand qui avait le premier démontré, dès 1940, la faisabilité de la bombe atomique. En 43, Fuchs suit Peiers aux États-Unis afin de collaborer au projet Manhattan, donc, et bizarrement, les Britanniques négligent d'avertir les Américains des sympathies communistes de Fuchs. Chaque week-end, celui-ci se rend donc à Santa Fe et c'est là qu'il a rendez-vous avec son contact auquel il rend compte de l'état d'avancement de la bombe américaine. En août 1946, il est rapatrié en Grande-Bretagne, où il devient l'un des responsables de l'Atomic Energy Research Establishment. Il transmet fidèlement à son nouveau contact, Alexander Feklisov, les résultats des dernières recherches menées dans le domaine de l'atome militaire britannique. Confondu donc en 1949, il fait des aveux complets. Jugé en mars 1950, il est condamné à 14 années de prison. Il sera libéré 9 ans plus tard et émigrera aussitôt en Allemagne de l'Est, où il devient directeur adjoint de l'Institut de physique nucléaire de Rosendorf. À sa mort, en 1988, il était membre du comité central du parti. Il n'a donc pas vécu l'effondrement de ses idéaux l'année suivante. Pour expliquer sa trahison, Fuchs a dit et répété « À ses yeux, la possession de tels secrets ne devait pas rester entre les mains d'une seule nation. Les cafouillages des services de contre-espionnage américains et britanniques demeurent une autre énigme. » D'après Frank Close, il s'explique en partie par la densité de secrets qui entouraient à cette époque tout ce qui avait rapport aux recherches menées dans le domaine du nucléaire militaire. Les services occidentaux eux-mêmes ignoraient qui faisait quoi.
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour cette figure que vous nous rappelez. Évidemment, le livre de Frank Close, j'imagine qu'il n'est pas encore en français. Il faudra
mais comme
attendre.
Le précédent a été traduit, j'ai bon espoir.
Ah voilà, merci beaucoup cher Brice.